Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. L'année 2003, c'était 2023, s'était achevée sans aucun espoir de trêve entre Moscou et Kiev. Elle a débuté sous une pluie de missiles à la fois côté ukrainien et russe. Des attaques d'une ampleur inégalée depuis le début du conflit, il y a presque 2 ans, et qui ont fait des dizaines de morts dans les 2 camps. Alors que l'Ukraine a échoué dans sa contre-offensive et qu'elle manque d'hommes et de munitions, la Russie, elle, semble prendre l'avantage sur le terrain avec la présence d'un nouvel acteur et allié, le paria nord-coréen. Que signifie cette alliance? Quelle stratégie poursuit Vladimir Poutine à l'approche des élections présidentielles russes? De son côté, quel espoir peut entretenir l'Ukraine qui craint d'être oubliée par ses partenaires étrangers et ne cesse de se rappeler à leurs bons souvenirs? Déluge de missiles, la rage de Poutine, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Et avec nous ce soir, Elsa Vidal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Bonsoir. Dominique Trinquant, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et je cite votre ouvrage « Ce qui nous attend » aux éditions Robert Laffont. Pierre Aski, bonsoir.
Bonsoir.
Chroniqueur international pour France Inter et l'Obs, votre édito ce matin à retrouver sur le site de Radio France s'intitule « À la frontière avec l'Ukraine, le blocus polonais en guise d'avertissement à l'Europe ». Enfin, Anna Colin-Labédève, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Merci à tous les quatre de participer à ce C'est dans l'air en direct. J'ajoute que nous retrouverons le journaliste et correspondant à Moscou, Paul Gogo, au cours de cette émission. Elsa Vidal, des frappes de grande ampleur, on le disait ces derniers jours, dont une attaque russe sur Kiev la nuit du Nouvel An, une 50aine de morts des 2 côtés, des centaines de blessés. Ça fait 2 ans qu'on pose assez régulièrement cette question, et je vais le refaire. Est-ce que le conflit entre dans une nouvelle phase?
Alors, dans une nouvelle phase, c'est un peu trop court pour le savoir. En revanche, pour moi, cette reprise des hostilités véritablement franches et tournées vers Kiev et les grandes villes du pays, parce qu'elles ont aussi visé notamment Lviv et Kharkiv, c'était, à mon sens, quelque chose qui découlait logiquement de la décision du 14 décembre prise par l'Union européenne d'élargir finalement, enfin d'ouvrir le processus d'adhésion et les négociations officielles en vue de l'adhésion de l'Ukraine, non pas parce que nous en sommes responsables et qu'il s'agirait d'une faute et d'une provocation, mais parce que l'objectif final de Vladimir Poutine, c'est depuis longtemps d'empêcher que les pays qu'il considère comme appartenant à sa zone d'influence légitime, dont l'Ukraine, ne choisissent un développement tourné vers l'Occident et l'adhésion en rejoignant les institutions européennes et ou otaniennes. Quand on a pris ce genre de décision, entre le moment où on l'annonce et où elle va devenir réalité, ça veut dire qu'il est temps pour les autorités russes de mettre une pression maximale avant d'être mis devant la réalité de cette nouvelle alliance qui donnera une protection supplémentaire à l'Ukraine. Et c'est pour cela que, à mon sens, c'était tout à fait normal, quasiment, du point de vue russe, que cette aggravation des hostilités soit notée.
C'est aussi pour cette raison, selon vous, que ces frappes se sont intensifiées, ce nouvel épisode.
Oui, alors, nouvel épisode qui réitère l'épisode de l'année dernière. Il faut se souvenir que l'hiver dernier, les frappes avaient eu lieu pour détruire, en particulier, l'infrastructure énergétique. Sur le plan militaire, j'allais dire, c'est une nouvelle phase. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens ont raté leur offensive pendant l'été, hein, qui a commencé au mois de juin, face à un mur défensif russe qui a bien tenu. Mais de l'autre côté, les Russes n'avancent pas. Oui. C'est-à-dire qu'ils tiennent bien sur leur défense, mais ils n'avancent pas. Et donc, ce que cherche...
On parle d'une centaine de mètres gagnés.
Oui, oui, rien. Avec, au passage, beaucoup de pertes. Hein, beaucoup de pertes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes cherchent à faire plier l'Ukraine.
Et alors, on va voir la carte des frappes, peut-être, ouais, exactement, et de quelle manière elles se déroulent. Plusieurs villes, on le disait, ont été frappées par les Russes.
Oui. Alors, je pense qu'il y a 2 phénomènes pour l'armée russe. La première, c'est de faire faiblir la population ukrainienne. On sait qu'il y a eu des discussions au sein du gouvernement avec le chef d'état-major et tout. Donc, la Russie essaye d'enfoncer un coin dans le bloc ukrainien, et puis sur le plan purement militaire, avec des frappes importantes, on cherche à obtenir 2 effets. D'abord par la saturation. Quand vous envoyez 110 missiles et drones, Ben, il y en a peut-être 10 qui arriveront, donc qui feront des dégâts. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous obligez l'adversaire à consommer beaucoup de munitions. Or, on sait que le problème de l'Ukraine, ce sont les munitions. Mmh. Et les munitions antiaériennes en particulier, qui sont des missiles qui coûtent très cher. Vous savez, on dit qu'il y a du mal à approvisionner des obus de 155. Mais ça, ça se produit assez vite. Un missile, c'est un mois pour fabriquer un missile. Mmh. Donc, vous voyez, le cycle de fabrication est beaucoup plus long. Et donc, à la fois saturé pour réussir à frapper, mais en plus épuiser la défense antiaérienne ukrainienne de façon à augmenter la pression sur les populations, essentiellement, avec un paradoxe extraordinaire, c'est qu'il y a eu une frappe ukrainienne sur Belgorod, donc en Russie, et là, réunion du Conseil de sécurité immédiate. La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité. Alors que toutes les nuits, il y a des frappes sur l'Ukraine, et il n'y a pas de réunion du Conseil de sécurité là-dessus, tellement c'est devenu banal.
Pourquoi Belgorod a été ciblée, Anna Kolarnevedev.
La région de Belgorod est à proximité immédiate de la frontière ukrainienne. Donc je pense qu'il y a, une question d'accessibilité. L'Ukraine cherche à frapper aussi régulièrement la Crimée. Et il y a aussi pas mal d'attaques qui se produisent en mer Noire contre des navires. Alors après, vous voyez, moi, je suis absolument pas experte de la question militaire. Donc
j'imagine qu'il y a un objectif psychologique et un impact important sur la population à Belgorod et peut-être la Russie de manière plus générale.
De manière générale, les attaques se produisent certes à proximité de la frontière ukrainienne, mais vous avez aussi des explosions, vous avez des choses qui se produisent ailleurs en Russie, autour d'infrastructures plutôt militaires ou plutôt stratégiques. Donc oui, l'idée derrière, c'est de faire comprendre aux Russes que la guerre n'est pas seulement conduite à l'extérieur de leur territoire et ne les concerne pas, mais elle est conduite également en Russie.
Oui, simplement pour ajouter une touche militaire et logistique, les deux points logistiques importants pour le dispositif russe, c'est Belgorod au nord et c'est la Crimée au sud. Or, ce sont les deux endroits qui sont frappés en permanence. Parce que ça touche la logistique. Belgorod, c'est en Russie. La Crimée est clamée et comme étant russe par les Russes. Donc, on frappe le territoire russe, là où ça fait mal, au nœud logistique.
Pierre Aski, vous écriviez il y a quelques semaines « L'hiver sera rude pour l'Ukraine ». Ça se confirme ?
Oui, il l'est parce que d'une part, il y a la répétition de ce qui s'est passé l'année dernière, donc l'attaque des infrastructures, notamment électriques. Dès le début de l'année, une partie de Kiev était plongée dans le noir et donc privée de chauffage, d'électricité, etc.
Je rappelle, je regardais tout à l'heure qu'il fera moins 11 à moins 16 la semaine prochaine.
Donc on essaye d'atteindre évidemment le moral général de la population. Et puis, il y avait cette situation à la fois intérieure et internationale. Et là, effectivement, tout se lie. Mais lorsqu'on force l'Ukraine à utiliser un maximum de munitions pour sa défense aérienne, ça tombe au moment où les Occidentaux ont du mal à suivre, à la fois pour des raisons logistiques, mais aussi évidemment pour des raisons politiques. Et les Américains en particulier viennent d'annoncer qu'il n'y aura pas de nouveaux crédits, puisque pour l'instant, c'est paralysé, c'est dans l'impasse. Les Républicains bloquent au Sénat et les Américains ont fait une déclaration aujourd'hui qui est assez dramatique pour l'Ukraine en disant on va aider l'Ukraine à créer sa propre industrie de défense, ça va se faire en Ukraine, etc. Mais nous ne pourrons pas apporter en 2024 autant d'aide qu'en 2023. Donc Poutine, évidemment, appuie là où ça fait mal et donc il force l'Ukraine à être très présente dans son usage de munitions à un moment où le renouvellement n'est pas au rendez-vous.
Et alors que la Russie conseille aux habitants de Belgorod d'évacuer par crainte de nouvelles frappes, les Ukrainiens font donc face à un déluge de missiles. Hier soir encore, la Russie a lancé 29 drones sur le pays, 21 ont été abattus. Les dernières images sont commentées par Laura Rado et Benoît Thébault.
Dans le ciel ukrainien, un déchaînement de feu, comme le pays n'en a pas connu depuis le début de la guerre. Kiev, mais aussi Lviv, Odessa et Kharkiv ont subi ces derniers jours une série de bombardements massifs et meurtriers.
Quel cadeau les Russes nous ont fait pour la nouvelle année. Ce sont des êtres maléfiques. Maléfiques. Ils ont bombardé des quartiers résidentiels. Il y a des gens ici. Qui peut faire une chose pareille ?
Une autre frappe a touché la maternité et l'a complètement détruite. Les immeubles autour ont été soufflés par l'explosion et sont très endommagés.
Des raids aériens qui laissent derrière eux des bâtiments dévastés et surtout un bilan extrêmement lourd. Au moins 55 morts, 37 rien que dans la capitale ukrainienne. La Russie aurait tiré plus de 300 missiles et 200 drones explosifs en l'espace de 4 jours.
Les trajectoires des missiles ont été minutieusement calculées par l'ennemi pour causer le maximum de dégâts. C'est du terrorisme à l'état pur. Aucun pays n'a jamais eu à repousser de telles attaques, combinant des drones et des missiles, y compris des missiles balistiques.
Un redoublement de violence qui répond à une attaque, elle aussi sans précédent. Celle de la ville de Belgorod, en territoire russe, le 30 décembre.
L'une des explosions s'est produite ici, en centre-ville et sur la place de la cathédrale. Malheureusement, il y a des blessés et des morts.
À la télévision russe, Kiev est immédiatement pointé du doigt, accusé d'avoir délibérément visé des civils. En tout, 25 personnes tuées dans l'attaque la plus meurtrière sur le sol russe depuis le début de la guerre. Vladimir Poutine, au chevet de soldats convalescents, promet des représailles.
De notre côté, nous allons intensifier les frappes. Bien entendu, aucun crime contre les civils ne restera impuni. C'est une certitude.
La guerre surgit donc sur le sol russe. Suite à de nouveaux bombardements hier, les autorités de Belgorod annoncent le prolongement de la fermeture des écoles et proposent aux habitants d'évacuer. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, les combats se poursuivent, sans réelles avancées. L'armée russe revendique depuis Noël quelques kilomètres carrés supplémentaires près de Donetsk, à Marinka. En face, des Ukrainiens fatigués, en manque d'armes et de munitions.
Ces derniers temps, l'ennemi utilise le froid pour avancer et pour attaquer nos positions. Nos drones n'aiment pas vraiment ce climat parce que la neige colle et gèle leurs caméras.
La contre-offensive ukrainienne n'a pas atteint ses objectifs. Et selon le New York Times, le Kremlin, en position favorable, pourrait réfléchir à un cessez-le-feu.
Poutine a indiqué qu'il était satisfait du territoire capturé par la Russie et prêt à un armistice.
Ils veulent rester là où ils sont sur le champ de bataille.
À la veille des fêtes orthodoxes, aucune trêve en vue entre les belligérants. La Russie annonce avoir repoussé ce matin une nouvelle attaque de drones ukrainiens contre la péninsule de Crimée.
On a une question, téléspectateurs. Armes de Chine, d'Iran, de Corée du Nord, y a-t-il un début de coalition autour de la Russie ou est-ce simplement du commerce? Déjà, à propos de la Corée du Nord, c'est la Maison-Blanche qui affirme que la Corée du Nord a fourni des missiles à la Russie. Est-ce que ça, c'est plausible? Kiev n'a pas confirmé.
C'est totalement, c'est prouvé même. On a vu les transports qui passaient de la Corée du Nord pour aller en Russie. Deuxièmement, il y a eu des délégations importantes. Le président Poutine a rencontré le président nord-coréen, mais le ministre de la Défense...
Le train blindé...
Le ministre de la Défense est venu, et il y a eu probablement des accords qui ont été passés, de la fourniture en vrac, j'allais dire, d'obus, etc., de la Corée du Nord, et probablement de la technologie de pointe qui a été fournie à la Corée du Nord, ce qui explique un peu le langage, d'ailleurs, du président actuel, du président de Corée du Nord. Mais l'Iran aussi, on a vu... des convois passer la mer Caspienne et aller en Chine. Alors c'est moins évident en Chine, ce sont probablement des sous-ensembles qui permettent de fabriquer des drones, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément des éléments complets. Mais pour revenir simplement sur l'Iran, c'est très simple, le drone Shahed, il vient d'Iran. Et donc il a été importé, maintenant il est fabriqué aussi en Russie. Donc oui, une coalition de soutien pour la fourniture de l'armement, parce que l'Iran, pas un secret, la Corée du Nord et la Chine, l'ennemi majeur, c'est l'Ouest, c'est les États-Unis, et donc on fournit tout ce dont les Russes ont besoin.
Donc c'est plus que du commerce,
alors, à ski. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il faut distinguer, parce que l'Iran et la Corée du Nord sont les pays les plus sanctionnés au monde aujourd'hui, avec la Russie maintenant, mais ce sont des pays qui sont déjà soumis à un régime de sanctions énorme. Donc, on ne peut pas en rajouter. Donc ils sont libres, d'une certaine manière, de se rallier à la Russie et ils en attendent un retour en termes d'expertise ou de matériel militaire aussi. La Chine, c'est un autre cas de figure. La Chine fait très attention. Il n'y a pas d'armement, il n'y a pas de missiles, comme on le dit aujourd'hui avec la Corée du Nord, provenant de Chine. Il y a sûrement des composants. Les Chinois sont d'accord avec Poutine sur l'objectif international. Ils font très attention parce qu'ils pourraient eux aussi être soumis à des sanctions s'ils étaient vus en train d'apporter une contribution majeure à l'effort de guerre russe. Donc il faut faire attention. Il n'y a pas une coalition au sens un bloc russo-chinois, Corée du Nord et Iran. Il y a l'illusion de ce bloc. On est encore dans des alliances ponctuelles qui sont extrêmement importantes pour Poutine aujourd'hui parce que ça lui permet d'élargir son approvisionnement.
Oui, c'est évident. Combler ses lacunes.
Et ça crée d'autres sources de tension puisque, comme le général l'a dit, la Corée du Nord aujourd'hui est redevenue très active. Ce matin même, elle a tiré 200 obus d'artillerie et la Corée du Sud a évacué une île. Donc il y a cette stratégie de la tension internationale, mais on n'est pas dans le bloc qui agirait de manière cohérente et coordonnée.
S'allier au paria nord-coréen, Anna-Colin Lebedev, est-ce que ça souligne aussi que Vladimir Poutine et la Russie sont de plus en plus isolés à l'international ?
Alors, je dirais qu'on est moins dans un isolement que dans une réorientation qui apparaît d'autant plus spectaculaire qu'elle est complètement à l'opposé des aspirations et des manières de vivre de la société russe. La société russe, sur ces 30 dernières années, n'a cessé, en fait, de se tourner vers les pays occidentaux, d'envoyer ses enfants étudier à l'étranger, mais plutôt en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, de consommer à l'occidental, de s'imprégner de valeurs occidentales. Et donc, je dirais que ce tournant, c'est un tournant un peu à marche forcée. Et d'ailleurs, on ne demande pas tant à la population de suivre et d'adhérer. On est pour l'instant sur des questions stratégiques qui touchent uniquement le sommet de l'État et encore. C'est-à-dire que, vous voyez, on n'a absolument aucun dignitaire russe, y compris au sommet de l'État, qui aurait envoyé son enfant étudier en Chine ou travailler en Corée du Nord.
Oui. Pour le moment, oui. Pour le moment, c'est le cas, en effet. Après, pour compléter ce que disait Pierre Aski, il me semble que... Iran, Corée du Nord, Chine, leur positionnement se voit quand même dans leur vote à l'ONU, qui ont été, au moins pour les deux premiers, favorables à l'entreprise russe. Et pour la Chine, elle joue quand même dans une autre catégorie, parce que son ambition fondamentale est quand même de rivaliser avec les États-Unis. Et elle ne peut pas sacrifier ça, effectivement, à une alliance qui est secondaire pour elle vis-à-vis de la Russie, puisqu'on parle en Russie de vassalisation, en fait, de la Russie face à la Chine. Et ça veut dire également qu'il y a une prise de contrôle par l'industrie chinoise et par le marché chinois de ce que peuvent être les perspectives économiques russes aujourd'hui.
Question téléspectateur, et si le problème fondamental était que les Occidentaux discutent alors que la Russie agit ? Pierre Aski.
Alors c'est un petit peu exagéré parce que depuis deux ans quand même, on l'a dit plusieurs fois, l'Ukraine ne serait pas vivante aujourd'hui, elle ne serait pas là où elle est, c'est-à-dire capable de résister à la Russie s'il n'y avait pas eu l'aide occidentale. Je pense que c'est incontestable et ça reste le cas jusqu'à aujourd'hui malgré toutes les tergiversations et toutes les discussions qu'il peut y avoir dans le camp occidental. C'est clair que c'est plus facile pour Poutine d'appuyer sur un bouton et de faire fonctionner sa machine et c'est un pays autoritaire. Nous, on le voit bien en Europe, ce qui s'est passé en décembre.
Non, mais c'est vrai qu'il y a le sentiment, vert, en tout cas, que ça discute beaucoup,
En décembre, le feu vert à un nouveau paquet d'aide à l'Ukraine a été bloqué par le veto de la Hongrie d'Orban. Oui. Et il y aura une nouvelle réunion en janvier pour essayer de le débloquer. Donc, c'est évidemment des processus beaucoup plus compliqués parce que ce sont des pays démocratiques.
En attendant, l'Allemagne a envoyé des armes. Ça va des radars de surveillance aérienne, des cartouches, en passant par des ponchos de camouflage. C'est le dernier à avoir envoyé une militaire.
Oui, c'est le dernier à annoncer, mais c'est très injuste de dire que les Européens discutent. Ils décident. Depuis deux ans, l'Union européenne a pris des décisions, enfin presque deux ans, absolument qui étaient impensables il y a trois ans. Elle a pris des décisions dans le soutien avec la Facilité européenne de paix, avec la fourniture d'un million d'obus. Alors, les millions d'obus ne sont pas là, mais les finances sont là. Dans l'industrie européenne qui s'est remise sur le pied de guerre. Simplement, après les dividendes de la paix que l'Europe a connus, parce que l'Europe était persuadée qu'il n'y aurait plus de guerre pendant 25 ans, bah, remettre les usines en marche pour fournir des milliers d'obus, des canons, etc., c'est compliqué. Mais les exemples français, le canon César, bah tiens, qu'on voit justement à l'écran, on a multiplié par deux la capacité de production des canons César. Il y avait une usine d'obus qui devait fermer, qui maintenant travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc l'Europe réagit, mais comme Pierre l'a dit, évidemment, force et faiblesse des démocraties. Pour décider, il faut discuter d'abord.
Il faut s'entendre.
Alors que le dictateur, il n'a pas de problème. Il n'y a pas beaucoup de discussions. Je voyais même l'image très triste, pardonnez-moi, du président Poutine au milieu des blessés. Les pauvres blessés qui étaient là, on sentait qu'on leur avait dit « bon, il faut être présent ». Ils n'ont évidemment rien le droit de dire. Donc voilà. Et si vous allez en Europe, eh ben, vous voyez des discussions. Mais ça se termine toujours par une discussion, une décision pour l'instant. Et la décision du mois de décembre, la première, c'est ouverture de l'Ukraine à l'Europe. Ça, c'est quand même majeur. C'est stratégique.
Très rapidement.
C'est très, très rapidement. C'est stratégique. Et M. Orban, qui était à Paris aujourd'hui, au mois de janvier, on va voir quelle décision. Il est tout seul. Donc ça va... La négociation, j'en ai discuté tout à l'heure, la négociation va aboutir. Ça dépend à quel prix. Voilà,
c'est je reviens juste sur ce que vous disiez, le Vladimir Poutine au milieu des soldats qui n'avaient pas l'air particulièrement heureux d'être là.
Les pauvres des blessés, vous savez.
Oui,
mais mettre en scène des blessés.
Mais au sein de l'armée, il y a toujours une confiance en Vladimir Poutine.
Je ne peux pas parler, mais je peux dire que simplement mettre en scène des blessés dans leur pyjama, là, autour du président, pardonnez-moi, je trouve ça très triste.
Effectivement, ce type de mise en scène est assez typique du régime russe. Pour répondre au mécontentement, on met en scène le président qui va parler à la catégorie de la population qui pose problème. Et c'est d'ailleurs un indicateur du fait que ça pose problème aujourd'hui. Le sort des soldats qui sont sur le front, des soldats blessés, mais aussi des mobilisés, par exemple, là, avec beaucoup de protestations aujourd'hui, des familles démobilisées auxquelles le président russe répond indirectement. Alors, pour ce qui est des mécontentements dans l'armée, en réalité, je pense que le pouvoir russe a perdu cet indicateur. Et il a perdu cet indicateur, notamment avec la disparition de Yevgeny Prigojine, mais également avec la volonté de faire taire d'autres personnes loyales au pouvoir qui pouvaient être critiques, en fait, de la manière dont la guerre était conduite. Donc aujourd'hui, en réalité, non seulement nous ne savons pas grand-chose de l'état d'esprit des troupes russes, mais il y a de fortes chances que le Kremlin lui-même ne soit pas très conscient, en fait, de ce qui se passe réellement sur le front.
Si on revient à l'aide militaire à l'Ukraine, qui en ce moment aide l'Ukraine militairement? Qui envoie des armes là, en ce moment?
Tous les Européens.
Tous les Européens.
Au fil de l'eau, j'allais dire, mais la clé aujourd'hui, puisque, je le répète, l'Ukraine, maintenant, c'est que l'offensive n'a pas fonctionné. Donc, elle doit, elle aussi, s'installer en défensive, au moins entre le Dniepr et Kharkiv.
Pourquoi? On a sous-estimé le besoin en armes?
On a oublié quelques leçons de l'histoire, c'est que le système défensif russe est absolument formidable. Sur 30 km, 4 lignes de front, des mines partout. Donc ce dispositif-là est extraordinaire. Les Ukrainiens l'ont testé, se sont aperçus, le chef d'état-major lui-même l'a dit, j'ai commis une erreur. Donc, un chef d'état-major qui dit « j'ai commis une erreur », ça veut dire quelque chose. Et donc, il cherche d'autres options. Ouais. D'où Belgorod, d'où la Crimée, d'où la mer Noire.
Elsa Vidal.
Oui, moi, ce que je voudrais rajouter, et j'irai un peu plus loin dans la critique que Dominique Trinquant, c'est que le dispositif et la manière dont nous avons choisi d'apporter une aide à l'Ukraine et l'aide que nous avons effectivement apportée ne pouvait pas produire une autre situation que celle-ci. Et c'était justement parce qu'on a visé des fournitures en armement qui ne permettaient pas à l'Ukraine de remporter une victoire militaire décisive par crainte d'un effondrement de la Russie, que nous sommes face, non pas à une défaite de l'Ukraine, mais à une absence de victoire que nous attendions. Et c'est aussi, alors c'est un choix délibéré de ne pas avoir fourni en temps, en heure, les armements auxquels nous étions, nous, collectivement occidentaux, États-Unis et Européens, engagés. Et par ailleurs, c'est un choix politique pleinement assumé. Donc les élites qui aujourd'hui viennent critiquer cette absence de victoire sont, à mon sens, les enfin, vraiment dans un niveau de cynisme assez important, puisque déjà aux États-Unis, le think tank qui est la RAND avait préconisé d'aller vers ce genre de solution, c'est-à-dire ni victoire ni défaite. Or, face à cette situation, le soutien effectif de l'Europe à l'Ukraine ne peut que baisser. Et le deuxième point, c'est que à aucun moment avant cette contre-offensive, nous n'avons dit aux Ukrainiens et à leurs dirigeants, nous vous soutiendrons, quels que soient les résultats et quel que soit le temps que cela prendra. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu Volodymyr Zelensky poursuivre des objectifs très coûteux en hommes, en ressources, alors que son chef d'état-major lui conseillait de revoir cette stratégie, de quitter l'offensive pour passer en défensive. Mais ça n'a été possible qu'après que notamment Ursula von der Leyen et Olaf Scholz aient formalisé le fait qu'on soutiendrait jusqu'au bout l'Ukraine. Mmh. Avant cela, on a soutenu l'Ukraine chaque fois qu'elle nous a apporté des victoires. Et donc là, on est en train aussi d'affiner notre positionnement politique et il faut qu'il soit de plus en plus clair. Et il faut aussi que nos déclarations soient suivies d'effets. Sans quoi, on ne pourra pas reprocher à l'Ukraine de ne pas avoir gagné dans une guerre où la variable, c'est nous. En fait, c'est à nous de savoir jusqu'où nous voulons la soutenir et si nous souhaitons une victoire, non pas une résistance de l'Ukraine, mais une victoire.
Ce soutien est donc questionné et le blocus en cours à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne l'illustre bien. C'est ce que vous expliquez ce matin, Pierre Aski. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe ?
C'est une crise qui est très révélatrice de cet enjeu qui est, en gros, l'équilibre entre le soutien politique à un pays agressé, ce que les Européens ont apporté dès le début, et le coût que ça peut apporter à un pays. Et la Pologne, qui était un des pays en flèche pendant les premiers mois, qui donnait même des leçons à la France à certaines occasions en nous trouvant trop timides et trop prudents, s'est retournée à l'été dernier lorsque les céréales ukrainiennes ont fait chuter les prix des produits alimentaires en Pologne. Et il faut savoir qu'en Pologne, quand même, le secteur agricole, c'est un tiers de la population. C'est absolument crucial. Et le gouvernement populiste de l'époque s'est complètement retourné et a commencé à dénoncer l'ingratitude ukrainienne. C'était cette phrase très, très sévère qui avait été prononcée par un dirigeant polonais. Il y a eu des négociations, le blocus a été levé, etc. Et il a repris hier avec un nouveau gouvernement, qui est un gouvernement libéral, donc que ne soutiennent pas les camionneurs et les agriculteurs polonais, pour le pousser à remettre, en gros, des garanties. Mais ce que ça veut dire, c'est que y a une limite au-delà de laquelle certains secteurs de la population peuvent se dire « Bon, c'est très bien la guerre en Ukraine, mais moi, je ne veux pas perdre mon niveau de vie, je ne veux pas perdre mes ressources. » Et c'est un enjeu à la fois humainement compréhensible, mais qui fait partie d'une équation globale, qui est celle de à quel prix on est prêt à soutenir l'Ukraine dans la durée, parce qu'on est inscrit aujourd'hui dans la durée.
Oui, tout à fait, parce qu'on parle beaucoup de la résilience de la population ukrainienne, mais il faut parler aussi de la résilience des populations européennes. Jusqu'à quel point les populations européennes diront ce combat est juste et doit nous amener à un certain nombre de sacrifices, ou bien écoutez, tout ça c'est bien gentil, mais on ne va pas se battre pour quelques kilomètres carrés, on en parlera peut-être tout à l'heure, et donc on les a soutenus, maintenant on peut peut-être arrêter les frais. Mais ça c'est un problème stratégique important pour l'Europe. C'est vraiment, la question c'est quelle est la stratégie du président Poutine derrière ça? Est-ce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse? Ou est-ce que, de façon plus globale, ce que je crois, le déséquilibre du monde l'intéresse? Donc, le déséquilibre de l'Occident, on le verra sur les problèmes fondamentaux et civilisationnels sur lesquels il s'attaque. Et à ce moment-là, on doit se sentir visé directement. Les canons sont là-bas, mais l'attaque, elle est ici.
Oui, que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Poutine? Ça, c'est effectivement la grande question. Est-ce qu'un cessez-le-feu est possible? On évoquait dans le reportage tout à l'heure dans le sujet le New York Times qui indiquait que Vladimir Poutine serait favorable à un cessez-le-feu à ces conditions. Vous y croyez, vous, ou pas?
N'oublions pas que nous sommes en période électorale en Russie. Et même si l'essentiel des commentateurs disent « il n'y a rien à observer dans cette élection présidentielle », c'est faux. Vous voyez, un régime autoritaire est peut-être moins soumis à des échéances électorales, mais les échéances électorales sont des moments extrêmement fragiles, ou des choses où le contrôle en fait se perd un petit peu sur les dynamiques politiques. Donc il faut effectivement agir d'une certaine manière. démontrer quelque chose à sa population. Alors là, Vladimir Poutine, il est placé dans une situation un petit peu contradictoire. D'un côté, il est profondément impliqué dans cette guerre. Cette guerre est le sujet de politique domestique et internationale qui l'intéresse.
Et je vais le citer, nous allons intensifier les frappes, aucun crime contre les civils ne restera impuni, c'est une certitude. C'était le 30 décembre, donc effectivement, quand on parle de cessez-le-feu, il a le discours qui dit, son discours dit totalement l'inverse.
Tout à fait, mais en même temps, eh bien, tous ces conseillers de campagne, et je dirais le ton qui est donné pour la campagne électorale, est de parler le moins possible de la guerre, d'avoir le discours le moins offensif possible, et je dirais, voilà, de faire comme si on était dans le business as usual. Il ne se passe absolument rien, le pays vit bien, tout est sous contrôle, la guerre est une petite affaire internationale que la Russie contrôle. Donc voilà, on a un président, en fait, qui ne sait pas non plus très bien sur quel pied danser, mais pour ce qui est de la population, par exemple, quand on interroge les Russes en leur posant la question si demain Vladimir Poutine décidait d'arrêter complètement les combats et de signer un cessez-le-feu, est-ce que vous soutiendriez cette décision? Oui. Trois quarts des Russes soutiennent.
Oui. On va partir justement dans quelques minutes en Russie retrouver le journaliste Paul Gogo en direct de Moscou. Mais d'abord, un rappeur vêtu simplement d'une chaussette et placé sur aucun de ses pieds. Une ex-candidate à la présidentielle russe en robe transparente et fil barbelé. La soirée jet set presque nue aurait pu rester presque secrète, mais elle fait scandale ces jours-ci en Russie où le conservatisme s'affirme à mesure que la guerre contre l'Ukraine s'éternise, avec un Vladimir Poutine qui se pose en garant de la vertu. À deux mois des élections, le chef du Kremlin a repris la main. Romain Besnénou et Christophe Roquet.
Des célébrités en sous-vêtements, d'autres quasiment nus, des invités dans des positions osées, le tout arrosé d'alcool. En quelques jours, les vidéos de cette soirée VIP à Moscou ont fait scandale en Russie. On y voit notamment l'organisatrice, une célèbre influenceuse, exhiber un bijou à 230 000 euros sur son postérieur.
Tu as déjà vu 23 millions de roubles sur une paire de fesses ?
Une soirée de débauche qui passe mal. Provocation, perversion, orgie. La Russie conservatrice est outrée.
Tout cela est vulgaire, grossier et indigne de l'élite.
Indignation à Moscou.
C'est juste de la débauche. Dans nos valeurs, il n'y a pas de place pour les LGBT, l'homosexualité, la prostitution.
Jusqu'au front en Ukraine.
Les gars meurent au front, nous on est au combat, et vous, vous faites un festin.
Il n'en fallait pas plus pour faire de la soirée une affaire d'État. Le rappeur qui arborait une chaussette sur son sexe, condamné à 15 jours de prison pour propagande homosexuelle. L'organisatrice, menacée de prison et d'amende, s'est excusée en larmes sur les réseaux sociaux.
Je mérite ce qui m'arrive, et je l'accepte, je suis sincèrement désolée.
Une affaire qui en dit long sur le virage ultra-conservateur et traditionnel opéré par la Russie depuis la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine serre la vis, encore plus répressif, encore plus totalitaire. Morale et patriotisme. En témoignent ses vœux pour la nouvelle année.
La principale chose qui nous a unis et nous unit toujours, c'est le destin de la patrie. Nous savons que le moment historique que traverse la Russie a une signification immense.
L'élection présidentielle du 17 mars approche. Et si le suspense est limité, c'est l'occasion pour Vladimir Poutine d'asseoir un peu plus son pouvoir. Nationalisme et culte de la personnalité au programme. Comme lors de l'inauguration de deux nouveaux sous-marins nucléaires en décembre. L'un, nommé en hommage à l'ancien empereur de Russie, Alexandre III, rappelle les ambitions militaires du Kremlin.
Nous renforcerons l'aptitude au combat de la marine russe. Nous renforcerons notre puissance navale dans l'Arctique, l'Extrême-Orient, la mer Noire, la mer Baltique et la mer Caspienne. Dans toutes les zones stratégiques les plus importantes du monde.
Montrer, surjouer même, la puissance russe, malgré la guerre et les sanctions. C'est dans cet esprit que le Kremlin utilise ces images de Vladimir Poutine, reçues en grande pompe dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite ou aux Émirats. Le faste, bien loin des tensions avec les Occidentaux. L'Occident, une nouvelle fois mis en garde, non sans ironie. Toute ingérence étrangère dans les élections russes sera sévèrement réprimée, prévient Poutine.
L'élite occidentale espérait non seulement faire tomber l'économie et la sphère sociale de la Russie, mais aussi le système politique de l'État. Ils croyaient et croient encore qu'ils peuvent semer le trouble interne parmi nous, mais leurs méthodes de déstabilisation sont bien connues et ont déjà été testées en vain.
Le scrutin semble de toute façon joué d'avance. Les opposants à Vladimir Poutine sont soit derrière les barreaux, soit interdits de se présenter par la justice. Le président avait été élu avec 77% des voix lors de la dernière élection en 2018.
Bonjour Paul Gogo, vous êtes journaliste correspondant à Moscou. Merci d'être en direct avec nous ce soir dans C'est dans l'air. On en parlait juste avant le reportage de la population russe, des médias aussi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Moscou autour de vous ?
Ah, eh bien, en ce moment, alors il fait très froid, donc il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, mais ce sont en gros les fêtes de début d'année en Russie. Pendant à peu près 10 jours, la ville est presque morte. Les gens organisent des repas chez eux et ce qu'on a vu dans le discours de Vladimir Poutine, d'ailleurs, du Nouvel An, du réveillon du Nouvel An, c'est que visiblement, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour l'instant pour parler de la guerre. On laisse au moins ces 10 jours aux Russes pour penser à autre chose et se rassembler en famille.
Donc on parle pas de guerre, business as usual, disait-on. Est-ce qu'on parle quand même de cette campagne où il n'y a pas de campagne présidentielle ?
Non, je pense qu'il n'y a pas de campagne. Je pense qu'on peut presque plus qualifier ça de plan de communication que le président russe va dérouler jusqu'au 15 mars, le début du premier et très certainement dernier tour de cette élection. Alors on voit effectivement tous les jours les candidats défiler dans le centre de Moscou à la commission électorale centrale. Il y a eu le communiste, il y a eu le nationaliste. Vladimir Poutine est venu le premier. Donc on voit ces images défiler partout. Mais en fait, ces élections, elles intéressent pour l'instant pas grand monde. Et d'ailleurs, ce qu'on voit déjà sur les panneaux en ville, parce qu'il y a des panneaux publicitaires qui commencent déjà à parler de ces élections, c'est que, comme à chaque présidentielle, l'enjeu principal, c'est la participation. Et Vladimir Poutine, il ne fait pas campagne pour lui-même, il fait campagne pour appeler les Russes à venir participer à son scrutin pour que sa victoire soit plus légitime que jamais ensuite. Il se dit d'ailleurs que le président russe vise les 80% de vote en sa faveur à l'issue de ce premier tour.
Est-ce qu'elle est mesurée, la popularité de Vladimir Poutine auprès de la population ?
Alors maintenant, il n'y a plus vraiment d'instruments pour mesurer tout ça. Il y a la limite. Moi, comme correspondant à Moscou, je suis presque dans la position la plus, on va dire, agréable pour aller mesurer ce que pense la population, parce que je suis amené à aller rencontrer les Russes dans des situations que d'autres personnes dans ce pays ne sont pas amenées à connaître. Mais les instituts de sondage, on sait ce qu'ils valent aujourd'hui en Russie, soit pas grand-chose. C'est-à-dire que vous avez un Russe va penser, ou en tout cas s'exprimer d'une façon différente s'il vous a au téléphone, s'il vous rencontre dans la rue, quelque chose que j'ai expérimenté d'ailleurs, s'il vous croise dans un train de nuit, quand vous vous retrouvez dans la même cabine qu'un Russe, il va se livrer à vous. Et moi, je reviens d'un long voyage en Russie et j'étais très étonné de voir que les gens parlaient d'eux-mêmes de la guerre alors que je ne leur posais même pas de questions sur ce sujet-là. Donc en fait, que ce soit les sondages, que ce soit les médias qui ne donnent pas la parole aux Russes ici, pas particulièrement du moins, ou l'opinion publique qui n'existe pas vraiment en tant que telle, c'est très dur de savoir ce que pensent les Russes. Et d'ailleurs, le système a été conçu comme ça. L'objectif, c'est que les Russes, un Russe ne sache pas ce que le même Russe de la ville d'à côté pense de toute cette situation et qu'on lui fasse croire qu'il est le seul à ressentir ce mécontentement. Et donc, il n'y a pas de lien entre les gens. Et c'était notamment le rôle de la presse, un rôle qu'elle ne joue plus depuis longtemps en Russie.
Vous évoquiez ce long voyage à travers la Russie, et ces trains de nuit et ces voyages au cours desquels les Russes que vous rencontriez se livraient un peu, et notamment sur la guerre. Que vous ont-ils dit ? Quel est leur sentiment aujourd'hui sur la guerre, en tout cas ceux qui ont pu vous parler ?
Eh bien, moi, là, le voyage que je viens de faire, pour tout vous dire, je l'ai fait entre Vladivostok, une extrémité du pays, jusqu'à Moscou. Et donc, j'ai eu le temps de parler avec les Russes. Le voyage est assez long. Et j'ai été étonné, sans l'être vraiment, parce que c'est ce que je ressentais déjà dans le pays jusqu'ici, de voir qu'en fait, j'ai rencontré cette majorité. Je pense que c'est une majorité dans le pays qui, on va dire, fait l'autruche, ou du moins n'a pas envie de regarder la guerre dans les yeux et n'attend qu'une chose, c'est que la guerre s'arrête. Et d'ailleurs, si un candidat débarquait aujourd'hui dans la présidentielle en Russie et disait « je vais me faire réélire et je vous promets que la guerre s'arrêtera au lendemain de ma réélection », je pense que ce serait un candidat qui aurait d'excellents résultats dans cette élection. Donc c'est vraiment ce que j'ai retenu avec des discours assez critiques de la guerre. Et vraiment, c'était mon objectif de ne pas pousser les gens à être critiques, de ne pas les pousser vers le retranchement, mais ce sont vraiment eux qui sont venus à moi pour me dire ce qu'ils pensaient de tout ça, avec aussi cette curiosité de savoir ce que nous, on pense de cette guerre, et notamment parfois venant de soldats, parce qu'il y a beaucoup de soldats dans ces trains, et même à Vladivostok.
Merci beaucoup, Paul Gogo, pour ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous en direct de Moscou. Henri nous demande, le maître du Kremlin est-il le seul candidat à la prochaine élection présidentielle ?
Non, pas du tout.
Des candidats, il y en aura pas mal, parce qu'il faut assurer la liste de candidatures. Mais les candidats, de toute façon, dans cette élection, seront contrôlés. C'est-à-dire seront admis à concourir uniquement des personnes qui ne représentent pas de danger pour le pouvoir politique. Je dirais, l'enjeu est ailleurs. L'enjeu n'est pas tant dans les opposants en fait à Vladimir Poutine que dans les personnes loyales à Vladimir Poutine, et notamment les élites à différents niveaux, les chefs d'entreprise et les milieux des affaires, les administrations centrales et les administrations locales, ces commissions électorales à qui on demandera par la ruse ou par la manipulation d'assurer le résultat qu'il faut assurer, y compris par exemple dans cette ville de Belgorod qui est frappée par des missiles ukrainiens et où sans doute eh bien la perception du pays qui va très bien et où tout est sous contrôle est un petit peu différente. Donc en réalité, l'enjeu n'est pas tant d'arrêter aujourd'hui des opposants mais de contrôler des loyaux. Hein, et c'est beaucoup plus difficile en réalité.
Oui, pour continuer sur la lancée, Dana, ce qui est important aussi dans ce processus électoral, c'est de donner aux Russes le sentiment que l'État fonctionne. Là, on était il y a 2 semaines à plus de 16 candidats enregistrés. On sait que effectivement, dans le processus, sous des multiples prétextes administratifs, on va se débarrasser. Un coup, on n'aura pas amené le nombre de signatures nécessaires. Un tel n'aura pas le bon formulaire. Le troisième n'a pas le profil ou n'a pas vécu depuis assez longtemps en Russie. Et au fur et à mesure, on amenuise le spectre des possibles. Et après, il va effectivement s'agir d'un très bon baromètre pour connaître les pressions qui s'exercent dans certaines régions, mais aussi l'humeur des régions. Parce qu'il y a des régions qu'on connaît, qui sont plus ou moins loyales, plus ou moins soumises, où il y aura plus de protestations, où il y aura plus de gens qui vont filmer éventuellement les malversations, les bourrages d'urnes, etc. Et pour reparler de Belgorod, à Belgorod, on a une jeune femme, blogueuse, qui, suite aux frappes très importantes en Ukraine, s'est filmée avec son passeport russe, y mettant le feu pour protester, bon, arrestation. Il y a aussi un jeune homme qui a filmé les frappes et le travail de la défense aérienne, qui a été poursuivi. Donc, il y a une attention en fait qui n'est pas nécessairement perceptible parce qu'elle ne se dit pas. Jamais les autorités vont vous dire nous sommes extrêmement inquiets. Non, ils vont au contraire montrer qu'ils ne sont pas inquiets, que rien ne les touche. Mais derrière, si vous suivez le travail des différentes institutions, vous allez vous rendre compte qu'il y a une activité très fébrile en amont des élections. Parce que quand bien même le résultat est acquis, tout est dans la nuance. Et il n'y a pas d'institut de sondage digne de ce nom qui publie indépendamment des études, mais il y a de nombreux instituts d'enquête privée que le Kremlin mandate de manière quasi hebdomadaire pour effectivement connaître quelles sont les attentes, les craintes, les désidérata de la population. Et ce que disait très bien Anna tout à l'heure, le niveau n'a jamais été aussi élevé parmi les Russes de ceux qui veulent une sortie négociée le plus vite possible de cette guerre. Et le plus vite possible, c'est 83% des Russes interrogés sur un échantillon d'à peu près 1500 personnes censées être représentatifs. Voilà le peu qu'on peut savoir, mais c'est déjà énorme.
Dans les différents axes pour la présidence, il y a celui-là. À partir du moment où vous dites que ce qui a été annoncé indirectement, moi, je suis favorable à un arrêt du feu maintenant, un cessez-le-feu, mais à mes conditions, ça permet de dire, vous voyez, c'est pas moi. Moi, je arrêterai la guerre tout de suite. Ce sont les autres qui ne veulent pas l'arrêter, puisque, évidemment, les conditions ne conviendraient pas aux Ukrainiens. Le deuxième sujet, je pense, c'est le sujet civilisationnel. C'est le problème de la guerre de la société traditionnelle contre la société occidentale. Et moi, je pense que les vidéos qui ont été montrées de la fameuse fête, là, dont tous les gens qui sont en Russie me disent « mais là, il y en a partout, des fêtes comme ça », oui, mais que la vidéo soit le lendemain diffusée, à mon avis, c'est pas anodin. Et ça permet au pouvoir de rebondir là-dessus, de montrer les mea culpa qu'on voit, de condamner et de dire, vous voyez que c'est scandaleux.
Et là, il va tout à fait sur la famille, sur la vertu.
Voilà, exactement, exactement. Et ça permet là de dire, vous voyez, ces gens qui sont des gens favorisés, c'est pas le peuple russe. Le peuple russe, c'est un peuple traditionnel qui ne veut pas de. On l'entendait, le LGBT, le etc., etc. Et je pense que c'est un autre axe. Fort pour la campagne de Poutine.
Vous n'avez pas tout à fait la même analyse, Anna Colin.
Je n'ai pas tout à fait la même analyse parce que, je dirais, je regarde aussi les dynamiques de la société russe de l'intérieur et je constate que ce discours-là, le discours sur les valeurs, sur les traditions, sur la dégénérescence occidentale, sur ces dégénérés qui organisent ce genre de fêtes, eh bien, nous en sommes les destinataires. En premier lieu, nous en sommes les destinataires pour donner une image de la Russie radicalement différente de l'Occident, pour fonder en fait cette opposition aussi, à l'Occident. Oui. Le deuxième destinataire, c'est ces pays qui sont les nouveaux alliés de la Russie, qui eux sont très, très attachés à s'opposer à des valeurs de tolérance, à des valeurs de société ouverte, etc., et auprès de qui on cherche un soutien. Mais ça ne correspond absolument pas à la manière, effectivement, dont la société russe fonctionne. Si cette fête a pu avoir lieu, et je vous assure que des images de ces fêtes là, non seulement elles circulent, mais elles sont publiées dans les revues qui sont dans tous les cabinets médicaux, vous voyez, privés de la ville de Moscou. Si cette fête a pu avoir lieu, c'est que précisément les Russes considéraient que ça fait partie d'une manière d'agir qui est tout à fait leur ordinaire. Dépenser tout votre argent, aller dans les extrêmes où vous voulez aller. En fait, tout est. Voilà, ces valeurs traditionnelles, en fait, n'existent, je dirais, que dans l'esprit de cette classe d'âge aussi qui gouverne la Russie aujourd'hui et ne correspondent absolument pas aux pratique. Mais aujourd'hui, effectivement, eh bien, il y a eu le pouvoir russe cherche à dire, à mon sens, à ces élites artistiques qui sont par ailleurs des stars et starlettes. On reconnaît tous les visages sont connus. Vous voyez sur ces vidéos, c'est pas des inconnus, c'est des personnes que les Russes aiment voir à la télé et aiment critiquer en fait dans les revues People. Alors, ce qu'ils cherchent à leur dire aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez plus être neutre vis-à-vis de cette guerre. Vous devez vous positionner. Et vous devez vous positionner du côté du pouvoir. Se mettre à l'écart n'est plus possible.
Pierre, oui. Cette affaire civilisationnelle, elle est effectivement intéressante par rapport à l'enjeu global des opinions publiques mondiales. Et on voit bien que depuis le début de la guerre d'Ukraine, il y a cet enjeu de l'Occident contre le reste du monde. On le voit dans les votes à l'ONU, etc. Et aujourd'hui, vous avez ce marqueur qui est extrêmement sensible, qui est la cause LGBT. Et vous avez en ce moment une affaire qui n'a rien à voir avec la Russie, mais qui est la prise de position du Vatican, qui permet d'ordonner des bénédictions pour les couples homosexuels, et qui provoque une levée de bouclier dans le clergé en Afrique. Et le Kremlin arrive et met de l'huile sur ce feu-là pour montrer que c'est lui l'allié de ces peuples qui ne veulent pas que l'Occident pousse l'homosexualité, etc. Et donc, vous avez ce clivage que Poutine alimente parce qu'il a besoin d'alliés sur la scène internationale et il voit bien que c'est un terrain sur lequel l'Occident n'est pas suivi par une partie du monde et qu'il est capable, lui, de marquer des points.
Sur la scène intérieure, ce qui me frappe, et je trouve que c'est vraiment un petit incident qui est très instructif de la manière dont la politique se structure en Russie et aussi du fait qu'on est dans une période de campagne électorale. Parce que des fêtes comme ça, il y en a beaucoup. Les clubs homosexuels réservés à l'élite en Russie, je les connais, j'y ai travaillé en tant que pour faire de la prévention sur le sida. Tout le monde sait où c'est et il fonctionne simplement parce que le fils de tel ou tel député ou tel ministre est lui-même homosexuel, parfois positif au VIH et a besoin qu'on y ait une forme de tolérance parce que là, on peut rencontrer des ONG qui délivrent des traitements, etc. Donc, il y a une structuration qui est absolument, j'ai envie de dire, binaire, on pourrait dire schizophrène ou hypocrite. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que officiellement et aux yeux de l'étranger dont nous souhaitons nous parer, donc nous sommes parés de vertu, nous sommes très droits, nous sommes très chrétiens, et puis il y a la réalité de nos pratiques qu'on reconnaît entre nous, et les riches dépensent sans compter. Après, ce qui se passe, c'est que ces riches-là, ils ne vont pas à la guerre, leurs enfants ne vont pas à la guerre. Et là, on a une campagne où, finalement, maintenant, la Russie aussi, pour l'emporter sur le terrain, elle a besoin de sang frais. Elle ne peut pas envoyer plus de gens à la guerre avant la campagne. Donc, elle a fermé la sortie pour les hommes en âge d'être mobilisés, mais elle ne les a pas encore mobilisés. Elle vient d'autoriser de donner la nationalité aux étrangers s'ils signent un an pour aller. Donc, elle a besoin de 100 frais. Elle en a beaucoup gaspillé à Avdiivka. Il faut du renouveau, mais on ne peut pas se le permettre. Ces gens-là qui se font prendre en train de s'amuser alors que d'autres souffrent, on leur demande quoi ? Ben, la propagandiste en chef, elle leur demande de payer, d'amener de l'argent pour l'effort de guerre. Et là, c'est bingo deux fois pour Vladimir Poutine, parce qu'il se fait passer pour un père la vertu, mais en plus de ça,
il récupère de l'argent
et il donne à la population l'illusion que lui, il vient forcer les méchantes élites qui ne contribuent pas à participer à l'effort de guerre. Donc il serait pourvoyeur de justice.
Vladimir Poutine sent les faiblesses comme un animal, car c'est un animal, il sent le sang. Il sent sa force et il vous mangera pour son dîner avec votre Union européenne, votre OTAN, votre liberté et votre démocratie. C'est Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, qui le dit et il trouve écho localement, notamment auprès du maire de Kiev, Vitali Klitschko. L'une des équipes de C'est dans l'air l'a rencontré il y a quelques semaines. C'est un reportage signé Barbara Steck avec Stéphane Lopez, Nicolas Baudry-Dasson.
Carrure de colosse. Vitali Klitschko, le maire de Kiev, ne quitte plus ses habits kaki, comme le président Volodymyr Zelensky. L'ancien boxeur mène depuis 2 ans le combat de sa vie. Alors que les livraisons d'armes diminuent, que la tension internationale se détourne de la guerre en Ukraine, il exhorte l'Europe à poursuivre son soutien.
En Ukraine, on ressent cette fatigue. Et les autres pays aussi. Mais chaque pays doit comprendre pourquoi l'Ukraine se bat. Quel est le but de cette guerre commencée par la Russie? C'est de reconstruire l'Empire russe. Et ne pas accepter l'existence de l'Ukraine en tant que pays, comme la Pologne ou les pays baltes. On entend des discours comme quoi ces pays appartenaient récemment à l'Empire soviétique. Et ce n'est pas un secret que le but de Poutine, c'est de reconstruire l'Empire russe. Même chez les Allemands, il y a des discussions autour de ce sujet. Et moi, je répète aux Allemands, s'il vous plaît, ce serait une grande erreur de croire que cette guerre ne vous touchera pas. Car dans l'imagination malade de Poutine, une grande partie de l'Allemagne où il a travaillé comme agent du KGB pendant de longues années, dans son imagination malade, c'est aussi une partie de l'Empire russe.
Une guerre d'usure. Sur le front, les lignes se figent, les combats s'enlisent. Sur le reste de l'Ukraine, les bombardements s'intensifient, mais pour l'heure, pas question de négocier.
Cette guerre a détruit le pays. Une grande partie de l'Ukraine est occupée. Et ceci n'est pas un compromis. Nous sommes prêts à négocier à une seule condition. Les soldats russes doivent quitter le territoire ukrainien. Après cela, on peut s'asseoir et commencer à négocier. Je trouve que céder une partie de notre pays après cette agression ne serait pas un bon compromis. Ce n'est pas possible d'échanger des territoires contre la paix. Aujourd'hui, tout le monde parle de la reconstruction de l'Ukraine. On parle de plan Marshall pour l'Ukraine, que nous devons définir avec nos partenaires européens. Sans leur soutien, ce serait impossible de le faire. Malheureusement, nous avons tout le temps des scandales autour de la corruption. Et cela représente un grand risque de perdre la confiance de nos partenaires. C'est pour cela que les réformes et les actions contre la corruption sont prioritaires.
Avant de terminer cet entretien, Vitali Klitschko veut une nouvelle fois mettre en garde l'Europe.
Beaucoup de personnes en Europe perçoivent cette guerre comme une image à la télé. Ils pensent que cette guerre est à des milliers de kilomètres de chez eux et qu'ils ne seront pas touchés. C'est une grande erreur. Notre tâche, c'est de tout faire pour arrêter cette guerre. Pour que l'Ukraine soit un pays indépendant et libre et fasse partie de la famille européenne. C'est notre but et c'est pour cela qu'on se bat.
Question de Bérangère du Puy-de-Dôme. Volodymyr Zelensky semble être de plus en plus contesté dans son pays. Cela peut-il influer sur la suite du conflit ? Anna Colin-Lébedev.
Alors, on est assez paradoxaux dans notre vision de l'Ukraine. D'un côté, on souligne que c'est un régime démocratique, que voilà, que le fonctionnement de la société est démocratique. Et puis, dès qu'il y a un désaccord, dès qu'il y a des opinions divergentes exprimées, qu'il y a négociation, conflit, discussion, et là, on pousse des grands cris en disant « Oh mon Dieu, en fait, le pouvoir est contesté, le pays est en train de s'effondrer ». En réalité, la critique à l'égard de Volodymyr Zelensky ne s'est jamais arrêtée. Coexiste avec un très grand taux de soutien à ce président qui dépasse encore largement les 70% aujourd'hui et surtout qui ne faiblit pas. C'est-à-dire qu'on a une vie politique à l'intérieur de cette guerre et dans cette vie politique, il y a des critiques, il y a des divergences sur la manière de gouverner, ce qui n'empêche pas les Ukrainiens en fait d'être derrière leur président qui représente leur pays sur la scène internationale, mais qui les représente eux en interne et qu'ils jugent dignes de les représenter.
Il y a des critiques, il y a des affaires aussi.
Oui, mais j'avais envie de dire, pour compléter, aller dans le même sens, un peu comme les Français. On n'a jamais vu les Français être heureux de leurs dirigeants. Ça ne veut pas dire que, dans certaines affaires, on ne fait pas bloc si on est face à un danger de sécurité nationale. Et l'Ukraine, depuis plus longtemps que la Russie, puisqu'on n'y est pas du tout en Russie, l'Ukraine a une vie politique intérieure très intense, avec effectivement aussi l'héritage, en partie, d'une gouvernance imposée depuis la Russie, qui a aussi généré, qui a son corollaire de corruption, de bataille pour des fiefs, et on ne peut pas le mettre sous le boisseau. Mais c'est vrai que ce qui est à notre décharge, c'est que ça fait un gros contraste avec la période où on ne voyait que Volodymyr Zelensky et il n'y avait pas d'autres voix politiques divergentes ou même convergentes, mais pas d'autres visages. Donc il y a eu ce moment où l'Ukraine finalement était incorporée par Volodymyr Zelensky. Là, on voit qu'il y a d'autres interprètes, mais finalement, Klitschko, il vient en soutien à Volodymyr Zelensky dans l'interview qu'on vient de voir. Donc tout ça est assez normal. En même temps, plus le temps passe sans qu'il y ait de changement décisif sur le champ de bataille, plus le front politique ukrainien est susceptible de se diviser et plus le nôtre aussi est susceptible de se diviser. Et différents États membres de l'UE exposés à une menace russe sont susceptibles de choisir, si nous n'allons pas collectivement assez vite, de s'engager dans l'aventure pour eux-mêmes préserver leur propre sécurité. Donc le temps est nécessairement porteur de débats supplémentaires.
Oui, je crois qu'il faut faire des petits retours historiques. Force et faiblesse des démocraties. La Première Guerre mondiale en France, les débats parlementaires étaient extrêmement violents. Mmh. Et les ministres et les premiers ministres qui menaient la guerre ont été contestés. Et là, dans l'épisode qu'on vient de voir, il y a eu effectivement des discussions. Ça peut apparaître comme une faiblesse de l'extérieur, mais au contraire, parce qu'à la fin, ça se ressoude et tout le monde travaille dans le même sens. Et il faut que les gens puissent s'exprimer comme ça. Tout à l'heure, j'aimais bien le point que vous aviez eu sur le fait qu'on... sur les soldats, on ne savait même pas quel était le niveau de connaissances qu'on avait des soldats sur leur volonté de combattre. Bon, y a un moment où ça explose. Alors que quand il y a des discussions, au bout d'un moment, on arrive à un accord et on arrive à travailler ensemble.
Pierre Aski, il y a aujourd'hui la situation au Proche-Orient, il y a les élections européennes qui arrivent, il y a les élections américaines. Ne nous oubliez pas, dit Vitali Klitschko, est-ce que les 6 prochains mois vont être décisifs pour l'avenir de l'Ukraine, de l'aide à l'Ukraine.
Dans la liste que vous avez faite, le moment important, c'est évidemment l'élection américaine et le possible retour de Donald Trump aux affaires. Et on voit bien que Vladimir Poutine, mais comme d'autres dans le monde, mise sur le retour de Trump pour changer la donne internationale. Et en tout cas, introduire un élément de confusion, de chaos politique et d'imprévisibilité dont les semeurs de troubles ont besoin. Et donc, les 10 mois qui restent jusqu'aux élections vont être des mois d'attentisme et de tentatives de brouiller les pistes pour cette élection, plus que de décision, parce que Poutine sait très bien que s'il attend, s'il tient jusqu'en novembre et que Trump est élu, il a gagné la partie. Il a vraisemblablement gagné la partie. Les Républicains aujourd'hui ne veulent pas voter l'aide à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec un président Trump tel qu'on le connaît, ça reprendrait ? Non, vraisemblablement pas. Donc on a une équation qui est tout entière, et pas seulement effectivement en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient. C'est le cas de Benjamin Netanyahou qui a à peu près le même calcul. Et dans d'autres coins du monde où on se dit... dans quelques mois, le monde aura changé. Mmh. Et pour nous, Européens, c'est évidemment un défi absolument majeur, parce que on se souvient quand même, on a peut-être déjà oublié, mais il faut quand même se souvenir du premier passage de Trump au pouvoir, où il est arrivé à une réunion de l'OTAN, décidé à quitter l'OTAN.
Absolument.
Ouais. Et imaginez, il n'y avait pas de guerre à l'époque, mmh. Imaginez ce que ça fait aujourd'hui, une situation comme ça. Et on ne sait pas si arrivé au pouvoir, il recommencera, s'il a le même agenda. On ne sait pas, parce qu'il parle de tout sauf de ça.
Ouais. Effectivement, c'est décisif. Rapidement,
c'est pour ça qu'on a 10 mois devant nous en Europe pour décider si on veut, oui ou non, exister comme puissance stratégique.
6 mois. Les élections sont au mois de juin, les élections européennes. C'est l'étape intermédiaire.
Oui, je pense que c'est
les Américaines. Et les Américaines, dans 10 mois. On va passer à vos questions SMS.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.